être et vivre entre l'univers et l'homme. Quatrième cours, les quatre causes. Premièrement, la recherche des causes. Comme cela a été étudié à plusieurs reprises, en particulier au premier chapitre dans l'expérience de la matière et de la nature, toute réalité existante est constituée d'une union intrinsèque entre une matière et une forme. La matière précédant la forme dans l'ordre du devenir. Il est intéressant de revenir quelques instants sur la matière, la cause matérielle, et sa relation fondamentale et radicale immanente avec la forme. Dans l'ordre de l'univers physique, donc de la relation entre la matière et la forme naturelle, il suffit de prendre quelques exemples liés à nos expériences. Une pierre, en granit ou en tuffeau, qui ont déjà des qualités très différentes, un arbre, un chêne ou un pin, aux qualités aussi très différentes, un animal, un chien par exemple. Nous sommes devant trois réalités naturelles aux formes et matières très différentes. La matière de la pierre, de l'arbre, qui appartiennent à l'ordre de ce qui est mu, ou du chien qui appartient à l'ordre de ce qui se meut, ne se ressemblent pas, puisque leur forme diffère radicalement. De plus, quand il s'agit d'un animal et davantage d'un homme, la matière n'est pas uniquement de la peau, mais bien davantage des os, des veines et des organes qui eux-mêmes ont leur forme propre. Cette expérience aux diverses matières et formes fait comprendre l'union intrinsèque fondamentale entre la forme et la matière, et en particulier la détermination tout à fait unique qu'une forme particulière donne à la matière, comme les dispositions uniques de la matière pour recevoir une forme particulière. Un homme n'est pas un animal, plus exactement, n'est pas qu'un animal, puisqu'il a l'esprit. Un animal n'est pas un arbre, qui n'est pas une pierre ou une roche. D'où le couple matière et forme possède un caractère unique, au-delà de tout modèle, puisque la même matière n'est jamais la même, puisqu'elle n'existe pas sans la forme, surtout pour la forme naturelle. Nous voyons là le caractère propre de cette union entre matière et forme. Tout devenir provient d'un mouvement artificiel ou du mouvement naturel dont nous faisons l'expérience dans l'activité artistique. Donc dans l'activité humaine de transformation de la matière, mais aussi préalablement dans l'expérience de l'univers. Cette expérience de l'homme avec l'univers, ce milieu qui est le sien, puisqu'il lui est connaturel par le corps, impose de le découvrir à partir des réalités mues, sinon l'étude du mouvement naturel sera impossible, comme la découverte de la matière et son principe, sa cause première, la materia prima, abordée à la fin du chapitre précédent. L'étude de la matière, et en particulier de la cause matérielle, réclame une nouvelle étude, un prolongement de cette étude sur les causes, puisque les causes sont de plusieurs ordres. La matière implique la découverte de la cause matérielle. La forme implique la découverte de la cause formelle. Telles sont les deux causes fondamentales que le philosophe met en évidence dans sa recherche sur l'univers. Toutefois, il prend conscience qu'une cause produit un effet, mais aussi qu'une réalité est mue ou se meut en vue d'une finalité qui lui est propre. Aristote écrit au début de l'éthique à Nicomaque. tout art et toute recherche, et pareillement toute action et tout choix, tendent vers quelque bien à ce qu'il semble. Or, comme il y a multiplicité d'actions, d'art et de sciences, leurs fins aussi sont multiples. Ainsi, l'art médical a pour fin la santé, l'art de construire des vaisseaux, le navire, l'art stratégique, la victoire, et l'art économique, la richesse. Fin de citation. De même, dans les réalités naturelles, le mouvement existe en vue d'une fin, ce qu'Aristote désigne dans la physique. Les êtres par nature ont tous manifestement en eux-mêmes un principe de mouvement et de repos, les uns selon le lieu, les autres selon la croissance et la décroissance, les autres encore selon l'altération. Fin de citation. Le mouvement, qu'il soit naturel ou artificiel, provient d'une origine et tend vers une finalité, entraînant un effet. Par conséquent, nous constatons que les causes sont diverses. Aristote a qualifié l'origine de ces questions fondamentales. Il s'agit du passage d'un fait constaté au pourquoi de ce fait. Le fait est évident, il s'impose de lui-même. La vie quotidienne le manifeste sans cesse. Je fais telle chose se passe ou m'arrive. Telle réalité se transforme. Pourquoi ? D'où cela vient-il ? Quelle en est la cause ? La cause explique le passage de quelque chose de visible à sa cause cachée ou invisible que l'intelligence peut découvrir. Il existe 5 causes possibles en philosophie. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause exemplaire, la cause finale. La cause matérielle répond à la question « en quoi ?» C'est la matière. Elle est la cause provenant de la matière. Tout conditionnement, tout devenir vient d'une cause matérielle. La cause formelle est la recherche de la forme, de la détermination. Quelle est la cause formelle dans l'activité artistique ? C'est la forme donnée à la matière, dont l'origine est l'inspiration de l'artiste, l'idéa. Quelle est la cause formelle dans l'amitié ? C'est le bien qui unit deux amis, l'un pour l'autre, et qui détermine leur amitié. La cause efficiente répond à la question « d'où cela vient-il ? » C'est l'origine. Elle est liée à la matière et à la forme. L'être, ce qui est, étant au-delà du devenir, n'a pas de cause efficiente. La cause efficiente demeure dans le comment. C'est dans le domaine du comportement, du devenir, de la matière, du corps, qu'est saisie la cause efficiente. Enfin, la cause finale répond à la question en vue de quoi ? C'est la fin, la finalité. En vue de quoi l'artiste travaille-t-il ? En vue de réaliser une œuvre. Quelle est la finalité de l'amitié ? L'ami en tant qu'il est la personne aimée. Quelle est la finalité de l'activité politique ? C'est le bien commun à tous les membres de la communauté désignée, un pays, une famille, une école, un hôpital ou une entreprise. Il faut ajouter la cause exemplaire qui répond à la question sur le modèle de quoi ? C'est le modèle. L'artisan travaille à partir d'un modèle qu'il recopie avec une part éventuelle de création, d'où une certaine inspiration. Il existe donc 4 causes principales et une cause secondaire. Deuxièmement, les 4 causes. Dans la physique, Aristote nous fait découvrir en premier lieu ce qu'est une cause. Ceci étant déterminé, il faut examiner au sujet des causes quelles elles sont et quel est leur nombre. Puisque notre étude a pour but de connaître et que nous n'estimons pas connaître chaque chose avant d'avoir saisi pour chacune le pourquoi, c'est-à-dire la cause première. Il est clair que c'est ce que nous devons faire aussi pour la venue à l'être et la destruction et pour tout le changement naturel, afin que, connaissant les principes, nous tâchions d'y ramener chacune des choses que nous cherchons. D'une certaine façon donc, on appelle cause ce à partir de quoi quelque chose advient et qui se trouve en elle, par exemple le bronze, est cause de la statue, l'argent de la coupe, ainsi que les genres de ceci. D'une autre façon, elle est la forme et le modèle, c'est-à-dire l'énoncé de l'être essentiel et les genres de celui-ci, ainsi que les parties qui se trouvent dans la définition. En outre, elle est ce d'où vient le premier principe du changement ou du repos. Par exemple, celui qui a délibéré est cause, ainsi qu'un père de son enfant, et d'une manière générale, ce qui produit de ce qui est produit, et ce qui fait changer de ce qui change. Elle s'entend encore comme la fin, c'est-à-dire en vue de quoi ? Comme la santé et la fin de la promenade. Pourquoi se promène-t-on ? Nous dirons que c'est pour être en bonne santé, et ayant dit cela, nous pensons avoir donné la cause. Fin de citation. Puis Aristote désigne les causes. Toutes les causes que nous venons de citer tombent dans les quatre modes les plus manifestes. En effet, les lettres pour les syllabes, la matière pour les objets fabriqués, le feu et les choses de ce type pour les corps, les parties pour le tout et les prémices pour la conclusion. Sont causes comme ceux à partir de quoi ? Et parmi ces choses, les unes sont comme le sujet, par exemple les parties, les autres comme l'être essentiel, par exemple le tout, la composition et la forme. Ensuite, la semence, le médecin, l'homme qui a délibéré et d'une manière générale ce qui produit, tout cela est cause en tant que ce d'où vient le principe du changement et du repos. Enfin, il y a les causes en tant que la fin et le bien des autres choses, car ce en vue de quoi doit être le meilleur et la fin des autres choses, et peu importe qu'on parle du bien lui-même ou du bien apparent. Fin de citation. Il existe donc quatre causalités: matérielle, formelle, efficiente, finale. Dans l'ordre des réalités physiques, qui est l'ordre du devenir, la causalité matérielle est la causalité fondamentale, la plus pauvre aussi, puisqu'elle est radicalement indéterminée, totalement relative à la forme qui lui donne son existence. La cause matérielle est saisie par l'intelligence comme première et première cause au niveau du devenir à partir de ce qui est mu dans l'expérience du mouvement naturel. Chacun peut en prendre conscience par ses sens, ses sensibles propres, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher ou le goût. Ensuite, le mouvement nous fait découvrir la causalité formelle, puisque l'artiste donne à la matière sa détermination, sa forme, qui entraîne une réalisation, un effet, d'où la causalité efficiente. Ainsi, l'altération du bois ou de la pierre par l'eau provoque une érosion dont l'effet entraîne une nouvelle forme, une autre forme, une transformation de la matière et des formes successives qui apparaissent au fil du temps. L'effet produit par le mouvement procède d'une finalité, telle la santé pour la médecine, la vision pour la vue, la vérité pour l'intelligence, ou l'œuvre pour l'artiste ou l'artisan. C'est parce qu'une finalité doit être atteinte, ce en vue de quoi telle chose est déterminée, telle action est conduite, qu'un effet se produit. D'où la causalité efficiente précède la causalité finale dans l'ordre du devenir, l'effet étant ordonné à une finalité. Toutefois, sans finalité, un effet peut se produire. Donc l'effet n'est pas obligatoirement lié à la finalité. Mais quand l'effet et la finalité coexistent, l'effet précède la finalité, puisqu'il se produit en vue d'une finalité. Parfois surnommé le stagirite, car il est né à Stagir, en Macédoine, Aristote semble conclure, puisqu'il y a quatre causes, il appartient aux physiciens de les connaître toutes, et il rendra compte du pourquoi, d'une façon physique, en le ramenant à toutes, la matière, la forme, ce qui a mu, et ce en vue de quoi. Fin de citation. Dans son analyse, il précise « Et les puissances sont causes des possibles, les actuelles des réalisés. » Fin de citation. C'est par la découverte de l'acte et de la puissance qu'Aristote saisit la finalité au niveau de l'être et saisit la matière en tant que cause première dans l'ordre du devenir. Troisièmement, l'ordre entre les causes. Le principe de causalité peut être découvert selon deux ordres différents, l'ordre du devenir et l'ordre de l'être, qui est un ordre de perfection, puisque l'être échappe à toute division, donc à toute quantité, à toute génération, à toute multiplicité. Il est, ceci est. Il existe un ordre entre les causes, ordre différent selon qu'il s'agisse du devenir ou de l'être. Aristote étudie cet ordre en partant de la distinction de l'acte et de la puissance. Il dit au livre 9 de la Métaphysique, « Le fait d'exister pour la réalité est acte, car il n'est pas à la manière de ce que nous disons être en puissance. » Par exemple, nous disons qu'Hermès est en puissance dans le bois, la moitié dans le tout, parce qu'elle pourrait en être retranchée. Nous disons aussi que celui qui possède la science et ne contemple pas, bien qu'il en soit capable, est en puissance. Celui qui contemple est en acte. » Fin de citation. Dans cette citation, par Hermès, il faut entendre la statue d'Hermès. La statue est en puissance dans le bois. L'acte est ce pourquoi une chose et ou existe. Pour la vision, la vue est l'acte de voir. L'acte est la finalité, ce en vue de quoi ? Ce qui est en puissance d'être. L'acte est la réalité elle-même en tant qu'elle existe, donc dans son être. Tandis que la puissance est la capacité d'être de ce qui peut être en acte. La capacité de voir pour la vue, la capacité de chercher la vérité pour l'intelligence, ou la capacité d'aimer pour la volonté. La puissance est de l'ordre de la disposition. En métaphysique, le philosophe découvre que l'être en puissance est finalisé par l'être en acte, comme fin de l'être. Au terme d'une induction dite synthétique et analogique, d'une manière analogique, comme celui qui bâtit pour celui qui peut bâtir, dit Aristote dans la métaphysique. L'être en acte est fin de l'être en puissance, répondant à la question ultime, en vue de quoi l'être ? Dans l'ordre des causes, le philosophe découvre et affirme que la cause matérielle est première des causes dans l'ordre du devenir, précédant la cause formelle, elle-même précédant la cause efficiente, avant la cause finale, terme des causalités. L'ordre de perfection est inverse, puisqu'il ne s'agit plus d'une puissance, d'une capacité en vue d'un acte, mais de l'acte parfait éclairant sa potentialité. Dans l'ordre de l'être, la cause finale détermine la cause formelle. Dans l'ordre du devenir, la puissance est première, puisque la matière est première. Dans l'ordre de l'être, l'acte est premier, car ce qui est saisi en premier, précédant la puissance, donc la capacité d'être. La puissance est saisie dans le devenir à partir de la matière, tandis qu'elle est saisie dans l'ordre de l'être à partir de l'acte, puisque l'acte éclaire la puissance. À titre d'image, entre la puissance et l'acte, entre l'ordre du devenir et l'ordre de perfection, l'ordre de la vie et l'ordre de l'être, l'exemple de l'œuf et de la poule est parlant. Qui est premier ? L'œuf ou la poule ? La réponse semble impossible. Elle est impossible, sans faire la distinction, entre l'ordre du devenir, l'ordre de la vie, et l'ordre de perfection, l'ordre de l'être, donc au-delà du devenir. L'œuf est premier dans l'ordre du devenir, puisque la poule en puissance est un poussin à sa sortie de l'œuf, donc à l'origine de sa vie, tandis que la poule est première dans l'ordre de la perfection, puisque sans la ponte de l'œuf, par la poule, l'œuf n'existerait pas. Par cet exemple, nous découvrons et nous prenons conscience de la primauté de l'acte sur la puissance, qui marque la primauté de l'être sur le devenir dans l'ordre de la perfection, en quittant la matière. Dans l'ordre du devenir, cette primauté de l'acte sur la puissance implique au point de départ, comme fondement, une matière, mais la dépassant pour atteindre l'être au-delà de tout mouvement. Cet au-delà ne rejoint pas les formes ou les idées, mais un principe selon la forme, dépassé et accompli par un principe selon la fin. Du fait de la primauté de l'acte sur la puissance. Ainsi, le philosophe juge l'importance de la cause matérielle comme fondement, première au plan génétique dans l'ordre des causes, impliquant la forme et le mouvement, et la cause finale comme perfection et sommet au niveau de l'être dans l'ordre des causes, au-delà de toute forme et de tout mouvement.